dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter la faute.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midi, mes parents sont rentrés.
Bonsoir. Alors nous sommes lundi 24
23
on ouais. va y arriver. Septembre, et vous êtes donc bien sur le 102.2, c'est le Canu Info du lundi. Et donc bah, comme tous les semaines, on va faire un petit tour en fait des différentes actualités, en commençant par l'international, en allant voir faire un point sur les dernières révoltes sur l'île d'Haïti, et après nous irons voir l'armée française en guerre. Et on finira sur faire un point sur la Guinée est-elle au bord de l'explosion. On écoute, on fera une petite pause musicale, et pour aller voir sur le national, en faisant un retour sur la manifestation du climat à Paris et les associations écologistes qui menacent nos luttes, nous écouterons un communiqué du CRA de Plaisir qui est dans les Yvelines, donc le centre de rétention administrative, et après nous reviendrons sur la manifestation du 21 septembre, une ville quadrillée et militarisée. Nous y écouterons à nouveau une petite musique intitulée Le Grand Lion, qu'on découvrira tous ensemble, et on ira faire un tour au local en faisant un point sur le collectif et sur le combat du collectif appelé Presqu'île en colère et Guillotière en colère, donc une bataille sociale pour le droit à la ville, pour finir justement pour revenir sur la Presqu'île et sur l'échec patent de la végétalisation ou des tentatives de greenwashing de la part de Gérard Collomb. Et enfin, nous aurons un dossier. Aujourd'hui, on n'a pas d'invité, mais on avait un très très intéressant dossier, ce qui nous permettra de faire le point sur la situation de Hong Kong. Voilà. Et donc, on va démarrer donc par Haïti.
Alors, que se passe-t-il à Haïti ? On en parle assez peu dans nos médias de masse français. Que se passe-t-il dans ce pays de 11,5 millions d'habitants ? Qui est le pays le plus pauvre des Caraïbes ? Le 20e pays le plus pauvre au monde, qui était à l'époque où il s'appelait encore Saint-Domingue, à la fin du 18e siècle, la colonie française la plus riche d'Amérique grâce aux immenses profits de l'industrie sucrière et de celle de l'indigo, vous savez, la couleur bleue très puissante, généré par le travail des esclaves. Hein, pour rappel ou information, à partir de 1780, la fin du 18e, c'était 36 000 esclaves africains par an qui étaient amenés pour remplacer leurs prédécesseurs qui mouraient à la tâche pour les beaux yeux de la bourgeoisie française. Au moment de la révolution d'indépendance de 1804, les esclaves noirs étaient déjà 10 fois plus élevés que les blancs. La population noire y est aujourd'hui toujours très largement majoritaire. Elle vit dans une extrême pauvreté, alors qu'une petite minorité noire et surtout blanche, soutenue par la France d'abord puis par les États-Unis, détient les moyens de production, l'armée, bref, le pouvoir. Cette minorité au pouvoir est largement corrompue et obéit au dictat d'un certain Fonds monétaire international depuis les années 80. En février 2019, donc récemment, il y a quelques mois, l'actuel président Jovenel Moïse, un ancien PDG d'une grande entreprise de production et d'exportation de bananes, soupçonné de blanchiment d'argent à plusieurs reprises et de fraude électorale, donc élu en novembre 2016, eh bien ce président a accepté, contre un nouveau prêt du Fonds monétaire international, une hausse des carburants allant jusqu'à 50%. Plusieurs scandales de corruption touchant un certain nombre de ministres ont également récemment explosé. Dès février, de nombreuses manifestations et émeutes avaient bloqué le pays. Les routes étaient coupées, de nombreuses barricades, de nombreux affrontements. Plus aucun transport ne fonctionnait. L'éducation et la santé étaient bloquées. Les trois principaux pays ayant des ressortissants, d'ailleurs, avaient conseillé à leurs ressortissants, américains, français et canadiens, de fuir Haïti, car ça devenait trop dangereux pour eux, les pauvres petits blancs. Ce mouvement donc est parti des quartiers les plus pauvres, notamment suite à un scandale de corruption, un autre qu'il faut ici souligner, c'est le scandale Petrocaribe. Alors en quelques mots, le Venezuela de Chavez puis de Maduro avait adopté un programme depuis 2005 de revente de pétrole à des conditions avantageuses aux pays des Caraïbes, donc à des pays qui sont pauvres, contre des investissements dans l'éducation, la santé ou les infrastructures. Cet argent a été finalement massivement détourné par le pouvoir en place, qui a durement réprimé le mouvement quasi-insurrectionnel de février, soutenu par les États-Unis. Pour la petite histoire, Haïti d'ailleurs a immédiatement suivi les États-Unis en reconnaissant Juan Guaido comme président légitime du Venezuela, ce qui a également participé au mécontentement populaire à Haïti. C'est précisément ce qui motive les nouvelles révoltes particulièrement intenses de ces trois dernières semaines. Les principales villes sont complètement bloquées. Le nouvel élément déclencheur n'est autre que la pénurie de carburant qui fait suite à la hausse de février sur commande du Fonds monétaire international. Ces derniers jours, les affrontements ont été très intenses. L'armée a tiré à balles réelles sur les manifestants, faisant plusieurs morts. Ce qui se passe à Haïti depuis plusieurs siècles, est un véritable scandale. On en connaît les responsables, une fois n'est pas coutume. Le colonialisme français d'une part, l'esclavagisme, puis l'impérialisme américain, mais également toujours l'impérialisme français qui soutiennent ou se jouent des régimes en place depuis l'indépendance à des fins purement économiques et géostratégiques. On suivra donc de près ce qui se passe dans cette ancienne colonie française, l'un des pays, je le rappelle, les plus pauvres et corrompus au monde, comme la plupart des anciennes colonies françaises.
Et toujours pour parler finalement des anciennes colonies françaises, on va parler des armes françaises qui sont toujours en guerre, puisque Mediapart a sorti cette semaine une enquête édifiante sur les armes françaises qui, c'est pas nouveau, hein, sèment la mort partout dans le monde. Alors on a déjà parlé ici longuement des armes vendues par la France à l'Arabie Saoudite dans cette sale guerre qu'elle mène au Yémen, guerre qui, rappelons-le, a fait des dizaines de milliers de morts et qui a causé une crise humanitaire sans précédent pour la population yéménite. Donc cette enquête qui s'appelle French Arms, elle est menée par un consortium de médias européens et elle apporte les preuves visuelles du blocus maritime mené par l'Arabie Saoudite pour affamer le Yémen. On y voit trois navires français présents au large des côtes yéménites. Deux de ces bateaux participent à une mission d'abordage et d'inspection de bateaux commerciaux. C'est des bateaux vendus par la France qui permettent donc à l'Arabie Saoudite et son allié, les Émirats Arabes Unis, de perpétrer deux véritables crimes de guerre. Alors on voit aussi sur les vidéos donc, deux frégates et une corvette fabriquées par Naval Group et CMN. Sur ces frégates et corvettes sont embarqués du matériel militaire français. La maintenance de ces navires est bien entendu assurée par des sociétés françaises. Donc ça, c'est pour l'Arabie Saoudite. On va maintenant du côté de la Papouasie. Alors, pour resituer un peu le conflit, hein, depuis 1962, l'Indonésie occupe la Papouasie occidentale et réprime les indépendantistes papous. On dénombre donc entre 100 000 et 500 000 morts depuis 50 ans. Et malgré les exactions de l'armée indonésienne, la France a vendu plus de 14 hélicoptères à l'Indonésie. Alors Airbus se félicite d'ailleurs dans un communiqué de sa relation de 40 ans avec l'Indonésie. Une bien morbide amitié qui conduit donc à l'élimination impitoyable des opposants sur le territoire annexé par l'Indonésie. Du côté du Maghreb, la France n'est pas en reste, hein, on s'en doute. Alors d'abord avec son éternel allié, le Royaume du Maroc. Des avions de chasse et des patrouilleurs français sont en effet utilisés par les forces royales, notamment pour maintenir l'occupation sur le Sahara occidental. Occupation qui, rappelons-le, a fait des milliers de victimes et déplacé plus de 200 000 Sahraouis. Je rappelle aussi que le Sahara occidental, qui est contrôlé de fait par le Maroc, n'est pas du tout reconnu par l'ONU. Enfin, la souveraineté du Maroc sur le territoire n'est pas reconnue par l'ONU. Ça ne semble pas poser trop de problèmes au gouvernement français pour autoriser Dassault à vendre... Dassault à vendre des chars ou Piriou, qui est donc un constructeur naval, à vendre des patrouilleurs pour contrôler le trafic maritime qui est particulièrement important dans la région, notamment en raison des réserves halieutiques. En Libye, on retrouve des patrouilleurs égyptiens qui sont aux mains du maréchal Haftar. Alors, vous vous rappelez, hein, c'est le chef de guerre qui a lancé en avril une offensive contre le GNA, le gouvernement d'union nationale. Je crois qu'on en avait parlé ici. Hein, le GNA, il est soutenu, enfin reconnu par le gouvernement français qui soutient en sous-main le maréchal Haftar qui donc attaque le GNA. Alors si vous ne trouvez pas ça pas cohérent, hein, c'est tout à fait normal. On ne sait pas trop comment d'ailleurs, enfin en tout cas c'est ce que dit Florence Parly, il y a 4 missiles anti-chars qui appartiennent pour le coup à l'armée française, hein, c'est même pas de l'armement qu'on a vendu, mais qui appartenaient directement à l'armée française, qui se sont retrouvés sur une base militaire de l'armée nationale libyenne, donc l'armée dirigée par Haftar. On retrouve aussi des blindés français qui avaient été vendus à l'Égypte, qui sont utilisés aujourd'hui dans la guerre qui oppose l'Égypte à Daesh dans le Sinaï. Guerre qui a vu, encore une fois, de nombreuses exactions contre les civils de la part de l'armée égyptienne. Et on va terminer ce charmant petit tour d'horizon par le Cameroun. Donc l'armée de Paul Biya, un grand copain de la France-Afrique, qui est en guerre contre Boko Haram dans le nord du pays, a formé une unité d'élite qui s'appelle le BIR, pour Bataillon d'Intervention Rapide, et donc est constitué de 5000 soldats qui s'illustrent particulièrement par le nombre d'exactions qu'ils commettent. Ils torturent, exécutent sommairement la population locale, et tout ça à l'aide de blindés français, hein, et bien sûr de la formation de la France pour l'ensemble des soldats. Donc voilà, le business de la mort est toujours aussi florissant. Et voilà, une fois de plus, mort à la guerre, mort au capitalisme.
Mort au dictateur, peut-être.
Bah là, c'est juste la France qui vend des armes
au dictateur, dont tu vas d'ailleurs immédiatement nous parler.
Ouais, évidemment, et il faut réellement dire que voilà, les jours passent, 2020 s'annonce, l'argent circule, les inconscients suivent aveuglément les imposteurs, la peur monte car c'est la paix qui est menacée en Guinée, puisque le président Alpha Condé veut que Vaïkever reste au pouvoir. Il menace et marcent tous ceux qui tentent de s'opposer à son projet qu'on peut qualifier de coup d'état constitutionnel. Il a nourri depuis longtemps le flou et s'il veut ou pas modifier la constitution pour maintenir au pouvoir, il répond toujours que la réponse appartient au peuple. Et au nom du peuple, il a invité ses militants de ne pas avoir peur à l'affrontement. Quand on sait qu'en Guinée, quand il y a des manifestations, souvent on voit qu'il y a certains qui sortent contre les manifestants. Et là, il dit réellement, le 24 mars dernier, il disait, je le cite, « Soyez prêts à l'affrontement. Personne en Guinée ne m'empêchera d'aller devant le peuple pour lui demander ce qu'il veut. » Il n'a pas fini. Il dit, « Si c'est pour vous marcher sur les pieds, soyez prêts à marcher aussi sur leurs pieds, pour qu'ils sachent que vous n'avez pas peur. » Et depuis sa sortie à cette occasion, le débat est sur les lèvres de tous les Guinéens, entre la minorité qui sont pour et la majorité des Guinéens qui sont contre toute modification de la Constitution en vue de maintenir un homme de 90 ans au pouvoir. Disons, après la bataille des Iris qui tentait de justifier comment et pourquoi on peut ou non modifier la Constitution, vient le tour des membres du gouvernement qui déclarent quand même lors d'une conférence de presse d'être favorables à la modification de la Constitution. Le président n'a pas affirmé, si vous voulez, s'il veut réellement de façon explicite de modifier la Constitution. Constitution, mais tout de même, il dit avoir compris le débat sur la modification de la Constitution. D'ailleurs, il a confié à son Premier ministre de faire des consultations avec l'ensemble des membres des organisations de la société civile guinéenne, mais aussi de la classe politique. Cette proposition est, disons, une proposition rejetée par le FNDC. Vous savez, FNDC, c'est ce Front National pour la Défense de la Constitution qui rejette, disons, cette proposition du Premier ministre et de son président. Et pour le FNDC, il n'est pas question de s'asseoir sur une table pour dialoguer sur la nécessité de modifier ou pas la Constitution. Cela n'empêche pas que le Premier ministre de se rendre à l'Assemblée nationale et de s'entretenir avec le président de la dite institution qui s'est dit favorable à la modification de la Constitution. Et cela s'est passé le 12 septembre passé, donc ça date pas loin. Après l'Assemblée nationale, Kassori quand même essaie aussi de rencontrer certaines organisations ou certains, disons, responsables qui quand même jouent un rôle quand il s'agit des organisations des élections. Alors là, je vous parle de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, qui s'est exprimée sur la date de tenue des élections législatives normalement qui étaient censées organiser depuis 2018, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu des élections et ils ont proposé une date qui est le 28 décembre 2019. Quand on sait que tous les fichiers électoraux n'est pas nettoyé et on sait qu'il y a eu beaucoup de doublons, le coup KO en 2015, on sait comment ces élections ont été organisées. Et donc, pour le gouvernement applaudit, disons, à cette annonce. Quant à l'opposition, c'est dit que cette date est intenable. Elle compte empêcher toute organisation des élections, que ce soit législatives ou autre organisation des élections, disons, dans ce pays, dans la situation actuelle avec un fichier électoral troqué qui permettra au président d'Alpha Condé d'obtenir une majorité qui lui sera favorable à son référendum. Une chose à souligner quand même qui me semble vraiment importante, c'est qu'il faut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont pour la modification de la Constitution sont acceptés sur la place publique, peuvent organiser des manifestations et sortir. Quant à ceux qui s'organisent dans des organisations de la société civile, alors cette société, disons, ce forum aujourd'hui qui s'est mis en place, disons, c'est pas que des politiques qui sont là. Il y a les enseignants, il y a tous les corps, disons, syndicaux et tout, qui se regroupent dans ce forum. Mais le problème, quand ceux-ci tentent quand même de sortir sur l'espace public pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, ils sont arrêtés et ils sont emprisonnés. Aujourd'hui, quand même, la peur monte en Guinée et on sait que dans les mois à venir, quand même, il y aura quand même un vrai risque d'un désordre à l'ordre public dans ce pays.
Alors, on fait une petite pause musicale avec un son qu'on avait déjà passé il y a quelques mois, un son d'un collectif de rappeurs, un featuring plutôt même de rappeurs espagnols qui s'appelle donc Los Borbones son unos ladrones, donc les Bourbons sont des voleurs, hein. C'est suite à l'incarcération d'un de leurs camarades rappeurs hein, qui a osé émettre des propos contre la couronne, hein, et donc c'est un texte contre la monarchie, pour la liberté d'expression et en solidarité avec leurs camarades incarcérés.
Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Vasos fieles, honor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón.
Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos.
El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez.
Sin plata subaim perquè creïm que un canvi és possible.
Nos podrien tenir a tira tots en fila.
Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria.
Insomni quan sa realitat avassiga.
Hacen faltas clases, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con Versace, sino con barricadas.
El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego, siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Nietas de guerrilleras en la guerra civil.
Libertad de expresión. Tomando posiciones.
Libertad de expresión.
Gran Inquisición.
lluvias ni fiscales ni bombones.
A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina.
El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla.
Por la guerra perdida de nuestras abuelas y yo por la poesía con duerme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc. Ocuparé Maribel a un Kalashnikov.
Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. Hija de su amante, recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace.
Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas. Hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas.
Esa situación preocupa bastante, me extinguche es que siempre mantengo a casa real. Antisistema es un sistema que condena a un cantán y que defena a un asesino de
elefante. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te robaste al rey. Dentro de muy poquito y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA.
Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión, por frases y armas simbólicas, terminar tras las rejas, una cosa no es simbólica, sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la realeza.
Libertad de expresión, tomando posiciones, que detumben las prisiones, los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, prende imposiciones, ni chuchas, ni fiscales, ni bombones.
Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción.
No callaremos, no callaremos.
No callaremos.
No callaremos, co.
No callaremos.
Por la insurgencia, Baltonic, Cell
y libertad de expresión.
Libertad de expresión. Tomando posiciones que detumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Prende imposiciones que resonen a las personas. Ni chuchas, ni fiscales, ni bombones.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, le Canu Info du lundi 23 septembre. Et vous venez d'écouter Los Borbones Son Unos Ladrones, donc un featuring de rappeurs et de rappeuses espagnoles contre l'incarcération d'un de leurs potes. N'hésitez pas à aller voir les paroles sur Internet et le clip, il est super. Donc, on enchaîne avec le national et je me fais une auto-transition et ça c'est fort. Donc, puisque vous avez forcément dû voir qu'à Paris, eh bien, c'était un petit peu mouvementé ce week-end, ce samedi. C'était bien la rentrée à Paris, hein, puisqu'il y avait alors, plusieurs manifestations de prévues. Donc, d'abord, la manifestation appelée par Force Ouvrière, hein, qui décide de faire une petite manif tout seul dans son coin contre la réforme des retraites. On avait la marche pour le climat, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et un appel national gilet jaune, donc dans un contexte de journée du patrimoine, tout ça a fait un petit peu flipper le ministère de l'Intérieur, la préfecture, qui ont donc publié deux arrêtés permettant de durcir le flicage et la répression des manifestants, comme si c'était pas assez dur les fois précédentes. Alors, le premier arrêté, clairement visait à empêcher les gilets jaunes de manifester, une fois n'est pas coutume. Plusieurs secteurs de Paris étaient interdits pour des manifestations, mais avec un nouvel élargissement, et pas des moindres, des lieux qui étaient déjà régulièrement interdits lors des actes gilets jaunes d'avant cet été. Alors quelques exemples, hein, le bois de Vincennes entièrement et le bois de Boulogne. Par exemple, quant au deuxième arrêté, il consistait à utiliser des dispositifs de loi antiterroristes qui ont été actés en octobre 2017, instaurant notamment le principe de périmètre de protection, facilitant les fouilles, les inspections de sacs à dos, de véhicules, etc. Mais pas seulement dans les périmètres interdits, mais également dans les périmètres autres que ceux qui étaient interdits. Ce qui a permis aux policiers eh bien, de fouiller beaucoup de gens. Alors, en termes de le nombre de flics, on était à 8000 flics. Il y a eu plus de 160 interpellations, une grande majorité d'interpellations préventives, au moins 90 gardes à vue Les tentatives de rassemblement des Gilets jaunes ont été systématiquement et immédiatement réprimées par de nouveaux cas de violence policière. Alors, il y a eu beaucoup de lacrymos, mais il y a eu aussi des tirs de LBD 40, des interventions et des interpellations assez musclées, notamment une qui tourne sur Internet de quelqu'un qui a l'air relativement âgé et inoffensif. Mais ça, on sait que les flics, c'est plus un problème pour eux. Hein. Ils tabassent les vieux, les jeunes, les aveugles, les handicapés, les non-handicapés, tout le monde. Il n'y a pas de souci quand c'est les Gilets jaunes. Alors, au final, la manif de Force ouvrière a regroupé plus de 16 000 personnes, ou environ 16 000 personnes, ce qui est pas mal au vu de la stratégie de division de la direction du syndicat par rapport au mouvement social en général et par rapport aux Gilets jaunes. La marche pour le climat, on va en reparler, a regroupé selon les organisateurs 50 000 personnes. On rappelle que ces deux manifestations étaient déclarées. Et donc, quand on passe aux manifestations non déclarées comme pour les Gilets jaunes, eh bien, c'est le carnage. En tout cas, il y a une petite jonction qui s'est faite entre les Gilets jaunes et la marche pour le climat à la fin donc, de cette marche pour le climat dont on va parler immédiatement après.
Et oui, donc, comme tu l'as expliqué, hein, ce samedi de manifestation a été marqué par une violente répression orchestrée par l'État. L'État, en fait, a décidé encore une fois de piétiner hein, le droit de manifester. Du coup, la manif pour le climat, hein, elle a été stoppée seulement 30 minutes après son départ par les forces de l'ordre. Et s'en est suivi un déluge de lacrymos et de plusieurs charges contre un cortège de têtes devant les organisations qui étaient composées de Gilets jaunes, de Black Bloc, selon les médias, etc. Alors pourtant, hein, malgré cette répression quand même sous leurs yeux, hein, certaines associations organisatrices, hein, et là je cite en particulier Greenpeace, plutôt que de la dénoncer, ont préféré renvoyer dos à dos la violence des dits Black Bloc et celle de la police. Greenpeace, d'ailleurs, est même allé jusqu'à appeler les participants à quitter la manifestation qui aurait été gâchée par les méchants Black Bloc. Terme générique, d'ailleurs, dont on ne sait toujours pas réellement ce qu'ils recouvrent, hein, évidemment, dans leur bouche. Donc, ça renvoie déjà à un problème qu'il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, pendant l'organisation du contre-sommet du G7, et la manière dont il avait été phagocyté par les associations écolo-citoyennistes comme Bizi, ANV COP21 ou Alternatiba. Alors, celles-ci avaient imposé, d'une certaine manière, leur consensus d'action non violente aux autres participants et s'étaient appliquées à empêcher toute autre initiative politique ou toute autre forme d'auto-organisation des participants. On est même arrivé à un point, l'information n'est pas sûre, mais selon le Canard Enchaîné, en tout cas, la plateforme anti-G7 aurait même conclu un accord avec le sous-ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, pour obtenir le droit de mener tranquillement leur manifestation des portraits de Macron, là, qu'ils ont volé dans les mairies, à Bayonne, le dimanche, en échange de l'annulation de toutes les actions qui étaient prévues dans différentes villes le même jour. Donc, bon, une annulation qui avait fait scandale, hein, et qui est révélatrice de l'organisation de ce contre-sommet, pas de démocratie interne au sommet, des décisions imposées sans motif valable. Et à l'image de ce qu'on peut voir aussi des fois à Lyon dans les manifs climat, hein, ces associations écolo collaborent allègrement avec la police et les autorités. Une collaboration dont c'est toujours les autres participants, et notamment les Gilets jaunes, qui font les frais. Alors ce week-end à Paris, on a eu droit aux mêmes pratiques. Hein. Les orgas écolos se sont encore d'ailleurs en amont de la manifestation imposée dans les préparatifs de cette dite manifestation. Il y a d'ailleurs un très bon article du site ACTA qui nous informe sur leurs pratiques. Ainsi, selon l'article, le site Avaz de pétition et 350.org aurait employé une agence d'événementiel pour organiser la manif du vendredi, la jeunesse pour le climat. Ouais, mon anglais, c'est pas ça. Hein. Un dispositif assez infantilisant qui remettait en cause le principe d'auto-organisation qui existait jusqu'alors de ces manifs. Un moyen aussi de formater du coup la manière de concevoir et d'organiser les manifs. Et cet article justement a l'intérêt de transmettre un document interne où on peut voir que la première préoccupation que doivent avoir les organisateurs, donc les jeunes, les étudiants, dans l'orga de la manif, c'est la protection de certains bâtiments par le SO et surtout, le plus grand danger identifié, c'est la potentielle infiltration de la manifestation par de vilains Black Blocs extérieurs. Et d'ailleurs, je parle de protéger des bâtiments. Pour cette manifestation, il parle en particulier d'un hôpital, ce qui est quand même symboliquement fort parce que ça valide d'une certaine manière le discours qu'avait pu avoir l'État il y a quelques mois sur l'attaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière par des gilets jaunes, quoi. Enfin, on en est à ce niveau-là, quoi. Donc, vraiment, un document qui sointe de l'idéologie du maintien de l'ordre. Et encore ici, je ne vous détaille pas tout ce qu'il y a dedans. Donc, en somme, en plus d'être inoffensives, hein, ces associations, ces organisations, elles s'associent avec l'État pour contenir d'autres formes de contestation et participent de la sorte à la dynamique autoritaire et policière du gouvernement. Plus loin même, donc, elles adhèrent d'une certaine manière à l'idéologie du maintien de l'ordre. Parce que ce que je n'ai pas dit aussi à Paris, c'est que le parcours même de la manif pour le climat était pensé pour empêcher les débordements et en fait limiter la convergence avec les gilets jaunes, puisqu'il allait carrément à l'opposé du secteur visé par les gilets jaunes, donc qui est vers les Champs-Élysées, mais aller vers Bercy, c'est-à-dire à l'opposé de l'agglomération parisienne à l'est, quoi. Donc même ça, ça a été pensé comme ça. Et un exemple, moi j'ai toujours un exemple emblématique, et là qui est plus à Lyon, dans la manière en fait dont vous pouvez voir pendant les manifs pour le climat, quand le mouvement des gilets jaunes était assez fort à Lyon, c'est la manière dont le SO il séparait avec une barrière humaine le cortège officiel et celui de tête, hein, donc un cortège de tête composé principalement de gilets jaunes. Donc une manière de dissocier physiquement des autres manifestations, et cette manière qui reprenait et validait en fait la violence symbolique des médias et du gouvernement à l'écart des gilets jaunes, donc casseurs, violents, sauvages, etc., et protéger la bonne manif familiale qui respecte l'ordre public. Enfin, au final, en fait, la non-violence dogmatique qu'imposent d'une certaine ces associations, elle se résume pas qu'à obtenir, elle ne se résume en fait, pardon, qu'à obtenir un écho médiatique qui ne subsistera que quelques jours, hein, ce qu'on appelle le lobbying citoyen, quoi, qui se mesure en likes, en retweets, mais pas en militants ou en engagement sur le terrain ou en solidarité concrète. Et ces assauts, en fait, souvent dirigés par des gens qui sont issus de la com, au final, ne font que vampiriser des luttes et les rendre inoffensives, alors qu'elles clament l'urgence climatique à longueur de temps. Ainsi, elles organisent d'une certaine manière notre propre impuissance collective sur ces sujets. En fait, ce que font ces assauts, donc, c'est une forme de mise en scène médiatique de notre impuissance à endiguer la future catastrophe climatique.
Peut-être une imitation aussi.
On enchaîne donc avec ce qui s'est passé au centre de rétention administrative en Yvelines.
Oui, puisqu'on va vous lire le communiqué des prisonniers du CRA de Plaisir en Yvelines, qui sont en grève de la faim depuis vendredi dernier pour protester contre l'interruption des visites, le refus de soins et plus généralement le comportement des policiers envers eux. Ils en reparlent un peu dans le communiqué, mais pour vous situer, samedi soir, donc le lendemain du début de la grève de la faim, une équipe de CRS extérieure au centre est entrée avec des chiens pour casser la grève. Ils ont tabassé et insulté les grévistes. Une personne a fini en garde à vue et une autre en cellule d'isolement toute la nuit. Et donc, je vous lis le communiqué qui a été publié le lendemain de cette intervention. Ça fait 3 jours qu'on fait la grève de la faim. Ici, les policiers font plein d'abus. Ils abusent trop. Ils traitent les gens comme des chiens. Ils font les visites comme ils veulent et des fois, ils prennent des gens qui n'ont rien fait et ils les menottent pour les mettre en cellule d'isolement toute la nuit. Même avec le médecin, c'est compliqué. Ils refusent tout. Il y en a parmi nous un qui a le pied déboîté et ils ne les ramènent même pas à l'hôpital. Des fois, ils arrêtent les caméras pour taper les gens. Hier soir, samedi 21, à minuit, ils ont rameuté au moins 30 policiers avec les matraques et les gazeuses pour nous faire rentrer de force dans notre chambre. On n'a pas le droit de fumer, ni traîner dans les couloirs, ni regarder la télé après minuit. Les déjeuners aussi, tous les jours, ils nous réveillent à 7 heures, obligés, comme si on était à l'armée. Les tondeuses et les lames, ils refusent de nous les passer. Les fenêtres sont bloquées H24. Les lits ne sont pas bien, ça fait du bruit toute la nuit, on n'arrive pas à dormir. Et dans la nuit, ils passent toutes les 30 minutes. Ça réveille les gens parce que les portes font du bruit, on n'a pas de coussin. C'est pas normal, franchement, l'état du centre est crade, très dégueulasse. Et souvent, quand les policiers arrivent, ils nous disent des paroles très racistes. Il y en a d'autres parmi nous, souvent, qui les attachent pieds à la tête et des casques à la tête, scotch à la bouche, et te font monter dans l'avion comme un colis de voyage. Et l'accusation aussi. Quand on leur donne nos dossiers, ils n'envoient pas tout au juge, ni à nos avocats. Ça aussi, c'est pas normal. Il y a des gens qui viennent au centre, passer un jour, ils ne voient même pas le juge et ils sont libérés. Alors que d'autres n'ont même pas le droit de passer devant le juge administratif, et c'est pas normal aussi. Pas de liberté, pas d'égalité, pas de fraternité avec nous, c'est la vérité. Et donc ça, c'était le communiqué des prisonniers du 22, donc d'hier. Et on vous lit ce communiqué comme on vous en a lu beaucoup d'autres venant de centres de rétention un peu partout en France. Ils ont chaque fois un air de déjà-vu. Par exemple, celui-là qui parle d'être traité comme des chiens, des réveils pendant la nuit. C'est presque un copier-coller de celui qu'on vous avait lu pour le CRA de Saint-Exupéry. Et parce que rien ne change, et c'est partout pareil, les CRA, c'est des lieux de privation de liberté, de privation de droits, parfois même considérés par les retenus comme pire que la prison, puisqu'on y enferme des gens très exclus, dont la famille et les réseaux ne sont pas forcément en France, qui ne parlent pas forcément français et qui n'ont aucun moyen de dénoncer la façon dont on les traite. Et forcément, c'est un mécanisme qui est quand même assez connu aujourd'hui, mais quand on met des gens dans une position de faiblesse, face à des gens qui ont presque tous les pouvoirs sur eux, d'autant plus qu'ils peuvent compter sur le fait que ce qui se passe entre les murs du CRA va y rester, eh ben, ceux en position de force l'utilisent, leur pouvoir. Il faut directement dénoncer l'État comme responsable de cette situation, qui précarise des milliers de personnes par le biais de ses lois sur l'immigration. C'est l'État qui crée des sans-papiers, c'est l'État qui les enferme et c'est l'État qui les torture et les expulse.
Après le national, on revient au niveau local. Une question se pose. Guillotière en colère, mais aussi une bataille sociale pour le droit à la ville.
Donc oui, on va parler d'une mobilisation, d'un genre de mobilisation dont on n'a pas trop l'habitude de parler dans cette émission. Donc en fait, il y a quelques mois, durant la période la plus intense du mouvement des Gilets jaunes, on a vu des commerçants et des riverains de la Presqu'île se former en collectif, ce qui s'appelait le mouvement Carré Nord Presqu'île, pour réclamer des mesures sécuritaires à la mairie et à la préfecture, l'objectif étant de préserver leur chiffre d'affaires et leur cadre de vie face aux gilets, ou à ces gueux de Gilets jaunes qui dégradaient quand même le centre-ville. Donc 700 000 euros avaient été débloqués pour subventionner les commerces et les interdictions de manifs en centre-ville ont commencé à pleuvoir à la même époque. Ce qui ne les a bien sûr pas pleinement satisfaits parce que leur seconde nature est de râler et de se victimiser. Enfin bon, bref, ça c'est un peu partisan, mais... Donc de la même manière, plus récemment, et sans lien direct cependant, mais ça y ressemble quand même d'une certaine manière, s'est créé un peu après un collectif donc contre les nuisances nocturnes qui s'appelle Presqu'île en colère. Enfin, c'est surtout un groupe Facebook en réalité où les gens postent des vidéos des nuisances sonores qui sont en effet nombreuses durant la nuit, des rodéos en voiture, donc c'est-à-dire du klaxon non-stop, des accélérations brutales, des moteurs qui rugissent, mais aussi les personnes alcoolisées ou se battant, etc., etc. Alors l'occasion d'ailleurs pour les riverains de faire exploser leur colère, chaque publication sur ce groupe suscite de nombreux commentaires et les réactions aux vidéos sont souvent assez virulentes. Alors ça fait plusieurs mois que quelques membres ont organisé une action en justice pour obtenir des mesures contre ces rodéos nocturnes, mais c'est un accident récent qui a accéléré la réaction des autorités. Dans la nuit du 14 au 15 septembre, alors qu'un concert de klaxon a lieu dans une rue, un riverain excédé lance un objet contre un véhicule. Les participants au rodéo alors forcent l'entrée de l'immeuble, excédé, et essaient de forcer la porte aussi de plusieurs autres apparts et profèrent des menaces de mort contre les résidents. Alors les flics interviennent assez rapidement et plusieurs types sont interpellés, mais l'accident obtient un assez important écho médiatique dans la presse locale qui n'a de cesse depuis de s'apitoyer sur le calvaire des habitants de la Presqu'île chaque nuit. Alors des mesures radicales ont été prises par la mairie, on a un dispositif policier important maintenant tous les soirs, une interdiction de circulation dans de nombreuses rues et en contexte électoral, colons et consorts comprennent bien l'enjeu de satisfaire des habitants qui sociologiquement ont un rôle plutôt important dans les scrutins. La même raison pour laquelle il y a des travaux partout en ce moment sur la Presqu'île. Alors toutefois, les membres du groupe Facebook et les habitants de la Presqu'île ne sont pas pleinement satisfaits des mesures prises. Je vous parlais tout à l'heure des commentaires véhéments. Eh bien, les appels à une répression féroce sont légion sur ce groupe, à l'image de la section commentaires d'un article du Progrès. De n'importe quel article du Progrès, en fait. Ainsi, les interpellés du week-end du 15, qui ont été remis en liberté en attendant leur procès, seraient la preuve, selon nombre d'entre eux, d'un laxisme permanent de la justice face aux racailles. Alors souvent, on assiste à des dérapages racistes dans les commentaires. On évoque la faune nocturne des dealers, la saloperie de racaille, les immigrés qui profitent des allocs pour bien pour rien faire le jour et emmerder tout le monde la nuit, etc., etc. Et d'ailleurs, la Coupe d'Afrique des Nations et les célébrations de la victoire algérienne avaient vu un déferlement de racisme et d'indignation face à ce qu'ils considèrent comme la bien-pensance et l'idéologie du vivre ensemble. Bon, bien sûr, c'est des dérapages, hein, les modérateurs essaient de les contenir, puisque ça donne quand même une assez mauvaise image du collectif. Bon, ainsi, au-delà d'une revendication qui, quand même, au premier abord, apparaît légitime à pouvoir dormir tranquillement, hein, on peut déceler autre chose dans ce mouvement. Il y a une forme de bataille, en fait, entre des groupes sociaux pour le droit de jouir de la ville. Alors, d'un côté, on a une population bourgeoise du centre-ville, hein, qui conçoit plus ou moins l'espace public comme un espace privé. Hein. Celui-ci se doit d'être policé, calme et dédié à quelques activités, et être surtout un lieu de passage avant tout. Bref, la conception qui reste dominante et qui est défendue par l'État. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que ces mêmes membres du groupe s'offusquent de la présence des SDF devant leur parking ou entrée, ou des fêtards trop bruyants et des personnes alcoolisées. Alors le centre-ville se devrait pour eux donc d'être exempt de toute fête ou consommation d'alcool, un lieu dédié uniquement à la tranquillité et au cadre de vie de ceux pouvant se permettre d'y résider. Or, d'un autre côté, on a des personnes plus ou moins jeunes, souvent des hommes, qui louent des voitures de sport ou de luxe pour parader en centre-ville. Hein. Bon, clairement, moi, c'est pas le genre de pratique que j'apprécie.
Une fois, je t'ai vu comme une Ferrari.
Ouais. Non, c'était une Fiat Punto, calme-toi.
Ah, d'accord. Tu reconnais pas bien, tu n'as pas beaucoup vu des Ferrari dans ta vie.
Mais des jeunes hommes issus de la périphérie et de ces quartiers, surtout des jeunes hommes donc issus de la périphérie et de ces quartiers populaires, hein, les quatre hommes qui ont été arrêtés l'autre jour lors de l'accident, venaient de Caluire, de Saint-Priest et de Vaux-en-Velin. Donc voilà. Mais en fait, les rodéos, c'est pas nouveau à Lyon. Hein. Les premiers, ils ont apparu dans les années 70, donc c'est assez vieux comme pratique. Et d'un point de vue sociologique, il s'agit plutôt d'une manière indirectement politique, c'est pas ouvertement politique, hein, mais de se soulever contre une forme d'exclusion spatiale et sociale de jeunes issus souvent de l'immigration maghrébine, ou en tout cas des anciennes colonies, ou qui ont des parents immigrés. Donc un moyen pour eux de revendiquer le droit de profiter du centre urbain et aussi des plaisirs de la société de consommation. Alors, même si on manque d'analyse sociologique approfondie sur les rodéos actuels, il ne fait pas de doute pour ces jeunes hommes-là que les causes sont plus ou moins similaires. Alors, croyant pouvoir profiter des succès récents du collectif Presqu'île, il y a un autre groupe qui s'est formé à la Guillotière, qui s'appelle Guillotière en colère, et qui a créé une pétition qui a obtenu à peu près 700 signatures. Alors, ils soulèvent contre les nuisances nocturnes et en particulier les trafics constants sur la place du pont. Donc, les enjeux ici sont un peu différents, puisque le quartier de la Guy, lui, n'est pas encore gentrifié, mais en phase de gentrification en tout cas. Et donc, réclamer une plus forte répression contre les petits trafics et la petite délinquance, c'est une demande issue de populations qui sont en train de remplacer les anciens habitants de classe populaire. Et ce collectif, en fait, d'une certaine manière, il répond de manière étonnante hein, aux initiatives du groupe La Guillotière n'est pas à vendre, dont on a pu parler plusieurs fois ici. Ainsi, donc, que ce soit à la Presqu'île ou à la Guille, la ville de Lyon semble être le théâtre d'affrontements entre des groupes sociaux pour réclamer le droit ou l'exclusivité à jouir de l'espace urbain et de certains quartiers.
Et donc ce qu'on peut leur dire à ces groupes-là, à ces personnes-là, c'est cassez-vous de la Guillotière, cassez-vous de la Presqu'île, laissez-nous tranquilles. On enchaîne donc avec le dossier sur ce qui se passe à Hong Kong depuis déjà un petit paquet de mois.
Oui, voilà, on vous l'avait promis la semaine dernière et c'est pour maintenant. Alors peut-être qu'on le fera en deux parties, vu le temps qui nous reste, qu'on va faire une première partie aujourd'hui et vous en aurez une la semaine prochaine. Mais on va commencer par un petit résumé historique de Hong Kong, assez rapidement, sans remonter trop loin. Hong Kong, c'est un territoire composé aujourd'hui de plusieurs îles et d'une partie, une petite partie sur le continent asiatique chinois dans la province de Canton. Ce territoire a pendant très longtemps et de façon presque ininterrompue appartenu à la Chine. C'était le cas déjà plusieurs siècles avant notre ère, mais au XVIe siècle, les Portugais y ont installé un comptoir. Ce comptoir a été assez mal accueilli puisque les marchands portugais se sont fait virer par l'armée de l'époque. Le commerce reprend avec les Occidentaux 30 ans plus tard et ce sont les Britanniques qui réussissent à s'approprier durablement ce territoire. Alors, au XVIIe siècle, Hong Kong est la seule ville officiellement autorisée à commercer avec les Occidentaux. Mais les conditions sont strictes. Les Occidentaux sont obligés de passer par un officiel qui représente l'empereur et qui fixe des taxes très élevées. Ça ne s'arrange pas avec l'empereur suivant, puisque celui-ci restreint les zones d'installation des étrangers, leur interdit d'apprendre le chinois et restreint le plus possible les contacts entre chinois et étrangers. La Chine n'achète en fait presque rien aux Occidentaux, qui eux veulent importer des tonnes de soie, de thé et d'artisanat chinois pour faire plaisir à l'Europe en cas d'exotisme. La balance commerciale penche largement en faveur de la Chine, qui en plus exige d'être payée en or et en argent le métal, hein, pas le papier, pour récupérer ces métaux. Les Britanniques finissent donc par importer d'Inde de l'opium, qui commence à être utilisé en Chine comme drogue, et cela prend très bien. Et c'est donc en vendant de l'opium aux Chinois que les Britanniques réussissent à récupérer leur argent. Assez rapidement, comme une trop grande partie de la population chinoise de la région devient accro à l'opium, c'est-à-dire plus de 2 millions de fumeurs chinois à la fin du 19e siècle, et que les cultures vivrières autour de Hong Kong sont remplacées par du thé afin de satisfaire la demande occidentale, la Chine commence à interdire la consommation d'opium, fait fouiller les bateaux étrangers et détruit les cargaisons d'opium, et finit même par fermer la Chine aux Britanniques. Les commerçants sont évidemment attristés de ne pas pouvoir poursuivre ce commerce fructueux et font pression sur leur gouvernement qui finit par intervenir en 1840, et c'est ce qu'on appelle la guerre de l'opium, qui après des rebondissements se termine 2 ans plus tard par la défaite chinoise qui cède Hong Kong à la Grande-Bretagne. Et celle-ci, donc la Grande-Bretagne, s'empresse de reprendre ses activités commerciales. Cela aura d'ailleurs pour conséquence d'ouvrir le commerce à d'autres pays occidentaux comme la France. Et lors de la seconde guerre de l'opium, la France participera et cela permettra à la France et à la Grande-Bretagne d'étendre leur commerce plus loin dans les terres chinoises. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hong Kong est brièvement occupée par le Japon. Lorsque ces derniers perdent la guerre, les Britanniques récupèrent le territoire. Mais comme la Chine est censée maintenant être un allié, un accord est signé en 1984 et qui sera actif en 1997 et qui rétrocède Hong Kong à la Chine sous la condition que le système politique et législatif de Hong Kong ne soit pas modifié pour une période de 50 ans sous le fameux principe de un pays, deux systèmes. Il ne faut quand même pas être tenté de croire en la bienveillance infinie de la Grande-Bretagne qui n'aurait pas voulu partir sans garantir la liberté de ses anciens colonisés. En fait, il s'agissait surtout de s'assurer, pour ceux qui avaient investi en Hong Kong, qu'ils pourraient continuer à faire de l'argent sur un territoire où le libéralisme ne connaissait pas de restrictions. Donc un pays, deux systèmes, qu'est-ce que c'est concrètement ? Donc officiellement, Hong Kong, à l'ONU par exemple, ça fait partie de la Chine. Mais c'est vrai que le système judiciaire hongkongais est indépendant. En ce qui concerne le gouvernement, c'est plus délicat, ne serait-ce que parce qu'en fait, à l'époque des Britanniques, les Hongkongais n'avaient pas plus de droits de vote qu'aujourd'hui, et donc ils héritent aujourd'hui de ce système où leur gouvernement, l'exécutif, au lieu d'être choisi par les Britanniques, il est plus ou moins choisi directement par la Chine. Actuellement, le chef de l'exécutif il est élu par un peu moins de 1200 grands électeurs qui sont en fait des représentants des différents secteurs économiques de Hong Kong, l'hôtellerie, le tourisme, la santé. Et les Hongkongais ne sont appelés à voter directement que pour les membres du Parlement et encore pour seulement la moitié des sièges. Les autres sont des représentants, encore une fois, des différents secteurs économiques dont les intérêts sont quand même plutôt de rester en bon terme avec Pékin, avec qui ils font une plus grande partie de leur commerce. Les 1200 grands électeurs choisissent donc le chef du gouvernement parmi plusieurs candidats et Pékin ne cache pas qu'il s'entretient avec ces candidats pour leur donner des instructions sur les lignes à suivre s'ils sont élus. Je pense qu'il est intéressant aussi de faire un petit retour sur les anciennes manifestations. Vous l'aviez peut-être suivi, mais en 2014, il y a eu un grand mouvement de protestation qui a été surnommé la révolution des parapluies parce que les manifestants utilisaient des parapluies pour se protéger des gaz lacrymogènes. Le déclenchement des manifestations est un projet visant à ce que les candidats à la tête du gouvernement hongkongais soient directement choisis par Pékin, au lieu de l'être indirectement, comme c'est le cas là. Les manifestants ont réussi à faire avorter ce projet, mais ils ont aussi donné une voix à une plus grande revendication, qui est celle du suffrage universel réel. Elle a aussi révélé l'intervention à Hong Kong de milices chinoises qui s'en sont pris à plusieurs reprises aux manifestants. Et à l'époque, les manifestations ont pu atteindre jusqu'à 900 000 participants. Et on est à beaucoup plus pour les manifestations actuelles. De ces manifestations est aussi née une génération qui est restée engagée et que l'on retrouve aujourd'hui dans la rue. d'anciens membres, pardon, on me fait des gestes que j'ai pas bien compris.
Mais... Parle bien dans le micro.
D'accord. Ouais. D'anciens membres d'organisations étudiantes ont depuis fondé un parti pro-démocratie qui s'appelle Démocistos, dont vous entendez peut-être parler si vous vous renseignez sur Hong Kong, mais qui est certes sûrement le parti le plus radical qui existe, mais qui reste très social-démocrate. Il y a eu d'autres manifestations de grande envergure, notamment contre une loi permettant aux investisseurs chinois d'investir plus facilement à Hong Kong, et ces manifestations n'ont pas été victorieuses. D'autres manifestations dont on parle beaucoup moins dans les médias, qui ont été moins relayées, ce sont les manifestations, par exemple, des femmes de ménage des Philippines, ou alors la grève des dockers de 2013. Et j'en parle, c'est pour regretter que ces manifestations... elle n'est pas de lien avec les manifestations d'aujourd'hui et que les manifestations de 2019 ont finalement assez peu de revendications sociales ou en tout cas que leurs voix ne se font pas trop entendre. J'hésite à entamer une partie supplémentaire, peut-être...
19h... Si.
Voilà, donc du coup, parlons maintenant des manifestations de 2019. De quoi on parle aujourd'hui ? Le déclencheur des manifestations de cette année, cette fois-ci, c'est un amendement à la loi d'extradition qui aurait permis à Pékin de réclamer des personnes qu'elle considère comme délinquantes pour les juger et les punir en Chine continentale. Comme il est très facile d'être délinquant en Chine si on critique le gouvernement chinois, les Hongkongais considèrent, je pense à juste titre, que cela restreindrait un peu plus leur liberté d'expression. Je dis à juste titre parce qu'il est déjà arrivé que des personnes disparaissent de Hong Kong où rien ne leur avait été reproché. C'est le cas de plusieurs libraires en 2015, dont l'un d'eux qui a fini par revenir à Hong Kong a ensuite annoncé avoir été enlevé puis retenu en Chine pendant 8 mois. Il a raconté dans une conférence de presse qu'il a été forcé de signer un document pour renoncer à ses droits de représentation par un avocat et de notification à sa famille qui donc n'avait pas eu de nouvelles pendant 8 mois. C'était en fait une librairie qui existe toujours d'ailleurs, qui vend des livres sur la politique chinoise qui sont interdits en Chine continentale. Et donc il y avait, et sûrement qu'il y a encore du coup, de nombreux Chinois qui venaient s'y fournir en livres qu'ils ne pouvaient pas lire chez eux. Les manifestations ont commencé fin mars, début avril, au début avec de très petites échelles, puisque le rassemblait environ 12 000 participants, et ce chiffre a énormément augmenté de manifestation en manifestation jusqu'à plus de 2 millions le 16 juin, soit presque un tiers de la population de Hong Kong qui en compte un peu plus de 7 millions. Les vidéos sont très impressionnantes à regarder et même sont assez agréables si vous voulez les voir. La manifestation du 16 juin est une des plus intéressantes. Donc depuis, les manifestations se sont multipliées, organisées au début par des organismes tels que le Front civil des droits de l'homme, des étudiants, des collectifs de maires ou les avocats de Hong Kong. Elles se sont largement accélérées. Donc en août, il y en avait même 2 ou 3 par semaine, mais elles sont organisées aujourd'hui spontanément et peu encadrées. C'est difficile de résumer tout ce qui s'est passé depuis plus de 3-4 mois, puisqu'il y a eu plusieurs mouvements. Il y a eu les mouvements de grève des étudiants, des boycotts de banques chinoises, l'encerclement de l'hôtel de police pour exiger la libération des interpellés dans les autres manifestations, l'occupation d'un aéroport, des manifestations de maires d'étudiants, les manifestations des avocats, et plein d'autres choses encore. Mais on peut quand même dire qu'il y a eu plus de 800 personnes arrêtées aujourd'hui. Moi, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. On continue la semaine prochaine. Sinon, on va couper sur des parties.
Tu comptes continuer donc ce sujet la semaine prochaine
ouais. Okay. Oui, parce qu'il reste plein de choses à dire sur les réactions de la Chine, même ce qui constitue vraiment le mouvement des Hongkongais.
Eh bien, vu qu'il nous reste quelques minutes, on va clôturer par le traditionnel agenda. Avant de vous souhaiter une très bonne semaine. Et donc, cette semaine, c'est en train de se finir, mais vu que ça va avoir lieu de façon régulière, je préfère quand même envie de l'annoncer, se termine à 20h30, place Louis Pradel. Et donc, comme je disais, va avoir lieu toutes les 2 semaines un rassemblement contre les féminicides, donc qui avait déjà eu lieu la semaine dernière, si je ne me trompe pas, et qui a pour but de démarrer ça à partir de maintenant, toutes les 2 semaines.
On peut rappeler qu'il y en a eu 3, voire 4 la semaine dernière, des nouveaux féminicides, et que c'est presque en train de s'accélérer, malheureusement. Depuis le début de cette année.
On a déjà tristement battu le record de l'année dernière. À l'heure actuelle, on a plus de femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints dès le mois de septembre 2019 par rapport à l'ensemble de l'année 2018.
Au moins, le terme féminicide est aujourd'hui plutôt accepté même par les médias mainstream, ce qui n'était pas le cas les années précédentes.
Clairement. Et donc, le prochain rassemblement, donc là, celui d'aujourd'hui se termine d'ici une demi-heure, mais le prochain aura lieu donc lundi 7 octobre, place Louis Pradel, donc à côté de l'Opéra. Vous avez dès demain matin un rendez-vous à 11h à la manufacture des tabacs pour démarrer la première manifestation contre la réforme des retraites, qui est donc une intersyndicale donc, qui a été lancée et que des camarades vous ont déjà fait un topo vendredi dernier, lundi dernier aussi, et vous retrouvez pas mal, hélas, d'informations sur cette catastrophe qui est cette nouvelle réforme, qui en gros on va avoir beaucoup moins d'argent, en travaillant beaucoup plus.
On en a parlé un peu la semaine dernière, on en fera un dossier également hein, dans les lundis qui suivent. N'hésitez pas à continuer à nous écouter.
Et pour clore la semaine, vendredi, vous avez différents événements, notamment à partir de 18h dans le premier arrondissement à l'école Michel Servet, une invitation du collectif Jamais Sans Toi, parce que on est déjà dès la fin du mois de septembre, et ils ont déjà en fait 9 enfants qui dorment à la rue et présents dans cette école. Donc c'est ce collectif là qui existe depuis maintenant quelques années à Lyon, qui a pour but justement de lutter dans les écoles, de repérer en fait les enfants et donc leur famille, être leur famille qui dorment dans la rue, et d'occuper les écoles, ou en tout cas de faire en sorte que ces personnes soient hébergées. Et donc là, il s'agit simplement d'un apéro partagé, donc qui a pour but de faire un point sur la situation avec l'ensemble des personnes motivées et de voir faire un point sur la suite des différentes actions à mener. En soirée, vous pourrez, à partir de 19h, aller faire un tour à la Bourse du Travail, le collectif d'un jeune CGT et une association, j'imagine, qui s'appelle Symbiosa, organise une conférence gesticulée qui s'appelle « Je travaille avec deux ailes », donc qui est une conférence gesticulée sur le travail contemporain et sa précarité. Enfin, vous, pour les plus sportifs d'entre vous, il y a dans le Trièves en fait des rencontres de deux associations camarades, notamment celle du combat libre et l'association Festival du sport de combat le 27, 28 et 29. Donc c'est l'association, je retrouve leur nom et les dates, c'est l'ACL et l'AJT, donc c'est l'association de combat libre et l'association de jiu-jitsu brésilien.
Bien joué, tu l'as fait sans regarder sur internet, c'est fort.
C'est tout beau.
Intelligent.
C'est pas du tout vrai.
Oui, je n'ai hélas pas encore le plaisir de fréquenter ces associations. Mais en attendant, elles font donc leur festival dans le Trièves et vous trouverez toutes les informations, ça dure tout le week-end, sur le site internet rebellion.info.
Voilà. Ah, je connaissais pas.
On en parle jamais de ça.
Un jour, une découverte. Vu qu'il nous reste une minute, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très 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 belle semaine. Et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Voilà comment on s'est quitté au compte de cette émission.
Sous-titrage Société Radio-Canada.